Bonsoir à vous. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation à participer à cette université d'été. Et puis, ben, je trouve, je peux dire un grand bravo aussi pour les organisateurs de cette université, parce que je trouve que c'est vraiment heureux comme type d'initiative, voilà, de proposer aux chrétiens de profiter de l'été pour prendre du temps pour réfléchir un peu sur des questions de fond. Ça me paraît vraiment très, très précieux. Alors, le thème de cette université d'été, c'est « Traverser l'épreuve ». Et moi, ce que je vous propose, c'est une réflexion qui permet, enfin, qui invite à voir l'épreuve pas seulement comme quelque chose à laisser derrière soi, mais en voyant comment on peut apprendre quelque chose à l'occasion de cette épreuve. Voilà. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est d'interroger des gens qui ont une sorte d'expertise en matière d'épreuve, des personnes qui vivent dans de grandes précarités. Moi, j'ai un petit peu l'occasion de les côtoyer dans la région parisienne, dans le cadre d'un groupe qui s'appelle la Pierre d'Angle, où on se retrouve une fois par mois pour lire l'Évangile, prier ensemble, passer un bon moment ensemble, un peu comme la famille Bartimée ici à Castanet. Voilà. Peut-être, ça vaut la peine de s'arrêter un tout petit peu sur ce mot de précarité. Parce qu'on peut se rappeler d'abord que nous sommes finalement tous des personnes précaires. Nous savons que nous allons tous mourir un jour. Et chacun de nous peut avoir un accident, hein, qui ensuite pèsera sur son existence. On peut perdre notre emploi aussi. Il y a des liens familiaux que nous tissons qui peuvent se déchirer. Et nous pouvons être touchés par la maladie, la dépression, les catastrophes climatiques, et on pourra allonger la liste. Voilà. Donc nous sommes tous des précaires. Mais nous pouvons l'oublier. Et je crois qu'on peut dire que peut-être que dans la tête de presque tous, la précarité, en fait, c'est ce qui est à éviter. Ce qui est à maintenir le plus loin possible. De sorte que ça nous donne l'impression de bâtir, on pourrait dire, un îlot de stabilité. Quelque chose de solide qui nous prémunit contre les mauvaises surprises. Et finalement, la précarité dans cette perspective, elle apparaît comme ce qui est anormal, ce qui ne fait pas partie de notre vie. Voilà, ça c'est une première chose qu'on peut dire au sujet de la précarité. Cela dit, d'autres personnes ont une autre expérience de la précarité. C'est l'expérience d'une vie qui sera presque toujours marquée par l'incertitude des lendemains. Est-ce qu'on va pouvoir payer le loyer qui arrive? Est-ce que j'aurai enfin un jour un appartement convenable? Que deviennent les membres de ma famille dont je suis séparé, dont je n'ai pas de nouvelles? Est-ce que mon employeur va me reprendre après les trois petites missions que j'ai reçues chez lui? Est-ce que je vais pouvoir m'appuyer sur ceux que je connais? Quel tour ma santé va encore me jouer? Certaines personnes vivent une vie marquée, on pourrait dire, de part en part, par la précarité. Et ici, je pense d'abord aux personnes qui connaissent la grande pauvreté, qui souvent a mis aussi beaucoup de violence et d'insécurité dans leur vie dès le commencement de leur vie. Mais on pourrait aussi penser aux personnes marquées par des handicaps, notamment des handicaps lourds, qui les fait dépendre en grande partie d'autres personnes tout au long de leur vie. On peut aussi penser aux personnes très malades ou très âgées, des personnes en fin de vie. On peut aussi penser aux étrangers, notamment ceux qui arrivent tout juste dans notre pays en ignorant beaucoup les codes qu'on utilise couramment, à commencer par la langue. Et en élargissant encore, on pourrait dire que, par exemple, les enfants sont aussi des êtres en plus grande précarité. Voilà, ils ont vraiment besoin de leurs parents pour vivre et ils ne peuvent pas ignorer que leur vie dépend d'autres personnes. Donc il y a beaucoup de figures différentes de précarité. Mais parmi les figures de précarité que je viens de mentionner, on pourrait dire qu'il y a des gradations. Par exemple, un enfant qui vit dans une famille relativement bien installée, unie, eh bien en général, c'est un enfant qui se sent en sécurité. Il se sent en sécurité peut-être plus qu'un adulte qui, lui, sera dans l'angoisse de ce qui va lui permettre de terminer la semaine. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses encore qui entrent en compte dans la manière de vivre cette précarité. C'est que souvent, les personnes touchées par la grande pauvreté, ils vont sentir une sorte de reproche qui pèse sur elles et sur leur situation. Par exemple, cette question, chez ceux qui les côtoient ou qui les regardent, comme s'il leur disait « Est-ce que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour t'en sortir ?» Vous voyez, une sorte de reproche comme ça. Et en projetant ce type de regard sur ces personnes, je crois qu'on rend les précarités infiniment plus lourdes à porter. Parce que les personnes qui vivent ça de cette manière-là se sentent terriblement seules pour les affronter. Alors je reviens à la question de départ. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la part des personnes en grande précarité? À partir de ce que j'ai dit là jusqu'à présent, peut-être qu'il y a une idée qui germe dans votre tête, qui serait que les personnes qui, elles, connaissent les grandes précarités de manière courante pourraient nous empêcher d'oublier, nous qui nous pensons en sécurité, d'oublier que nous sommes aussi des précaires. Ça serait la première réponse qu'on pourrait apporter. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la part des personnes en grande précarité? C'est qu'ils nous aident à ne pas oublier qu'on est tous des précaires. Alors je crois que c'est vrai, ça c'est vrai. Mais, et c'est même un point très important, mais je crois aussi que ce que nous pouvons apprendre de la part des personnes en précarité est plus large que ça, et plus riche que ça. Parce que ce qu'ils nous partagent, ce sont aussi des choses belles. Ce n'est pas seulement le rappel de notre fragilité, il y a aussi des choses belles dont ils font l'expérience, et ça vaut la peine d'essayer de les comprendre. Voilà. Ici, au Castanet, il y a la famille Bartimé. Castanet, il y a la famille Bartimé, des personnes dont beaucoup sont marquées par la grande précarité, qui se retrouvent régulièrement pour partager, lire la Bible, prier. Or, leurs échanges, parce que ce sont des échanges qui sont souvent enregistrés, une parole dont on prend soin, leurs échanges, c'est une source possible de réflexion. Et on en fait très concrètement l'expérience, parce que à Paris, au Centre Sèvres, là où je travaille, là, on a un séminaire de recherche où on réfléchit sur des questions théologiques en s'inspirant et en commentant ce que disent des personnes marquées par de grandes précarités, en voyant comment ça renouvelle les manières de voir des questions théologiques classiques. Voilà. Et il y a même un étudiant du Centre Sèvres, François Dinet, qui a fait son mémoire de master à partir de la famille Bartimé et qui continue dans la même ligne, avec une thèse de doctorat où il s'appuie là sur, je crois, le groupe Place et Paroles des Pauvres de Toulouse. Voilà. François Dinet, il a même écrit un livre à partir de sa réflexion sur la famille Bartimé. Malheureusement, je l'ai signalé trop tard à Agnès pour que ça puisse être présent ce soir, mais ça s'appelle « Vivant grâce à Dieu ». Et vous avez là le fruit de sa réflexion. Qu'est-ce qu'il a découvert à partir de ce que racontent les personnes, à partir de la manière de lire l'écriture, de se rapporter à l'écriture de ces personnes en grande précarité? Comment ça ouvre des horizons sur un certain rapport à l'écriture qu'on peut avoir? Voilà, donc ça c'est des choses pour dire que ce que je vous dis, c'est pas seulement de la théorie non vérifiée. Voilà, ça a un début d'application pratique. Voilà. J'ajoute à tout cela que dès qu'on creuse un peu, on va s'apercevoir qu'en fait, on ne pourra pas s'en tenir à la formule que j'ai utilisée pour mon titre, qui disait « Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la part des personnes en grande précarité ?» Parce que cette formule, elle pourrait laisser croire que la relation ne marche que dans un sens. En fait, souvent, on pense qu'on a avant tout à apporter quelque chose aux personnes en grande précarité, et on ne s'imagine pas pouvoir recevoir quelque chose de leur part. Alors c'est pourquoi moi j'ai proposé ce titre qui inverse la vapeur, on pourrait dire. Mais bien sûr, en fait, le partage va marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est ensemble, finalement, qu'on va apprendre des choses dans le chemin qu'on fera avec des personnes en grande précarité. Et chacun va recevoir de l'autre. Voilà. Je voudrais également insister sur un autre point. C'est que j'ai parlé d'apprendre des personnes en grande précarité. En général, on est assez d'accord pour tenir compte des personnes très vulnérables, et même pour les écouter, pour écouter leurs récits notamment. Et comme il est souvent question de récits où les personnes sont aux prises avec la violence, comme on voit souvent des hommes et des femmes qui se battent pour vivre, eh bien, leur histoire, souvent, a quelque chose d'assez fascinant. Et de fait, à partir de ces récits, on peut déjà apprendre beaucoup de choses. Depuis quelques décennies, on a la chance de disposer de récits écrits par ces personnes elles-mêmes. Je pense par exemple à Marcel Lehir, Bernard Gerling, Tim Gennart, Gérard Lecointe et encore bien d'autres personnes qui ont connu de très très grandes précarités, qui ont été marquées par la misère notamment, et qui ont fait un chemin à travers tout ça et qui après ont écrit quelque chose. Voilà. Ces récits sont vraiment très instructifs et ils nous font d'abord découvrir la réalité de la grande pauvreté. Des choses que souvent on imagine à peine, ou qu'en tout cas, on imaginerait vraiment difficilement pour nous. Du coup, lire ces récits, ça aide à se représenter un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire que d'être dans l'incertitude totale du lendemain, ou bien dans l'ignorance d'énormément de possibilités qui nous sont à nous très familières. Et puis surtout, qu'est-ce que ça représente que de n'être jamais pris au sérieux, pratiquement. De n'être jamais regardé comme quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et d'être, du coup, tenté par une immense colère qui peut faire devenir parfois fou furieux et qui ensuite ne fait que nous éloigner encore plus de ceux qui se sentent en sécurité. Voilà, donc vous voyez, tout ça, ça peut faire cercle vicieux aussi pour nous éloigner, pour faire que ces personnes sont très isolées, finalement. Alors, c'est vrai que ces récits-là, ça nous apprend déjà énormément sur cette réalité de la grande pauvreté. Et ça peut avoir comme effet, pour celui ou celle qui entend ça, de lui rappeler les personnes en grande précarité que il ou elle a connues, qu'elle a eu l'occasion de croiser dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que souvent on se dit « Donc ces personnes, c'est ça qu'ils vivaient. Et moi, je m'en suis pas forcément rendu compte. » J'ai fait pour ma part ce travail. Et à partir de ces familiers de la souffrance qui ont marqué mon histoire, je peux prendre conscience que des personnes comme ça aussi font partie de mon histoire. Et du coup, je peux faire appel à eux, notamment dans ma prière, notamment pour m'aider à y voir clair sur mon propre chemin. Donc, en lisant ces récits, on apprend beaucoup sur leur histoire. Mais on apprend beaucoup aussi sur leurs aspirations, leurs rêves, leurs combats, leurs déconvenues, leurs joies, leurs espérances. Cela dit, tant qu'on se contente de ces récits, que je vous encourage malgré tout vivement à fréquenter, tant qu'on se contente de ces récits, on n'attend pas nécessairement de la part de ces personnes très pauvres une réflexion, une pensée qui puisse contribuer à ce que nous élaborons ensemble pour faire société. Voilà. Or, ces personnes marquées par la misère, du coup, elles peuvent sentir qu'elles sont intéressantes quand elles racontent leur récit, parce que leur récit, ça nous fait quelque chose. Mais elles sont moins intéressantes, elles sont moins attendues comme des personnes capables de réfléchir et de penser, d'apporter une contribution à ce qui nous fait réfléchir. Voilà. Alors, j'ai mis la photo de Joseph Rzezinski parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup insisté sur ce point-là pour dire, mais vous savez, les personnes très pauvres, c'est des personnes qui pensent, qui réfléchissent aussi, qui ont des choses à dire et à proposer. Voilà. Pas seulement des personnes qu'on aime écouter, raconter leur histoire. Mais c'est aussi les personnes qui peuvent apporter une contribution. Voilà. Pourquoi vouloir apprendre quelque chose de la part de ces personnes qui connaissent la grande pauvreté? Est-ce que, en posant une telle question, on n'est pas finalement en train de se faire des nœuds dans la tête? Ou de faire vibrer je ne sais quelle fibre culpabilisante? Est-ce que finalement la société ne marche pas si mal que ça sans eux? Ou en les laissant, disons, sur le côté. Qu'est-ce qu'on gagne en se mettant à l'école des personnes en grande précarité? On pourrait se demander aussi, est-ce qu'en leur prêtant une attention exagérée, on ne va pas tirer tout le monde vers le bas? Alors je vais commencer par ces questions. Finalement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la part des personnes touchées par la grande pauvreté? Et puis, donc ça sera une grosse première partie, et puis après il y aura deux parties plus petites, où je m'interrogerai, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet possible que de se mettre à l'école de ces personnes? Et puis, est-ce qu'on pourrait voir autour de cela quelque chose comme une nouvelle figure de mouvement social? Voilà. Alors donc, la première partie, Que pouvons-nous apprendre des personnes en grande précarité? La première chose que j'aurais envie de dire, c'est que les personnes en grande précarité font l'effet de nous ramener à un essentiel. Pour ça, je pars d'une expérience qu'on a probablement tous faite. Je vais visiter quelqu'un à l'hôpital, un ami, qui est assez gravement malade. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi souvent, dans ces cas-là, sur le chemin, ça commence à gamberger dans ma tête. Et je me dis, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je vais trouver les mots justes pour lui parler? Est-ce que j'aurai la bonne attitude? Est-ce que je vais trouver les gestes pour lui dire mon affection? Et je commence même des fois à faire des bouts de phrases. Voilà. Et puis, j'entre dans sa chambre, et dès que je suis en sa présence, très souvent, les choses deviennent beaucoup plus simples que tout ce que j'avais imaginé dans ma tête. Je laisse tomber tout ce que j'avais échafaudé pour me laisser simplement guider par la présence de cet ami et pour simplement répondre à cette présence. Et alors, il n'est pas rare que souvent, des choses assez fortes se disent de manière simple. Et il m'arrive parfois d'en ressortir avec l'impression d'avoir été mise au large, une impression de sérénité, comme s'il y avait une respiration que j'avais retrouvée. Parfois même l'impression d'être plus en paix après qu'avant. Comme si aussi quelque chose de profond et de solide avait été touché, comme si on avait touché ça ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce genre d'expérience? Peut-être que être face à quelqu'un qui souffre m'oblige à laisser de côté des clés de communication que j'utilise d'habitude pour entrer en relation. Parce que face à cette personne-là, je sens que ces clés-là ne sont pas ajustées. Par exemple, je sens que je suis convoqué à autre chose qu'à un jeu d'échange où je devrais mettre en avant mes compétences, mes capacités, mes qualités, en faisant valoir ce que je peux apporter. En fait, une personne en souffrance, elle attend de notre part une relation qui n'a pas d'autre pourquoi que parce que c'est toi. Quand on vient vers elle, elle sent finalement ce qui nous pousse à venir vers elle. Et ce qu'elle attend, je crois, c'est qu'on vienne vers elle sans autre pourquoi que parce que c'est toi. Voilà. C'est pas pour mon image personnelle, c'est pas pour réussir quelque chose, c'est pas pour que toi tu progresses, c'est simplement parce que c'est toi. Et il n'y a pas d'autre parce que celui-là. Et une personne en souffrance, une personne en grande précarité, je pense qu'elle a dans sa tête un radar qui lui permet de détecter les relations qui ne sont pas des relations parce que c'est toi. Et quand elle sent qu'il y a une relation de ce type-là, eh bien, elle fait savoir que ça ne lui convient pas ou qu'elle ne peut pas aller sur ce terrain-là. Donc ça peut se traduire tout simplement par le fait qu'elle s'en aille. Voilà. Donc vous voyez, à partir de là, on peut dire que ces personnes en souffrance ou en grande précarité nous ramènent à une sorte d'essentiel. La relation parce que c'est toi, ça vaudra la peine de s'y arrêter un peu plus sur cette relation parce que c'est toi, parce que je crois que ça constitue en fait l'élément le plus vivifiant de tous les jeux relationnels dans lesquels on peut être impliqué. Ça fait passer à la section suivante que j'ai intitulée « Accueilli dans l'alliance ». Quand cette logique relationnelle est mise en œuvre, finalement, qu'est-ce qui se produit ? Ici, je vais m'appuyer sur le récit d'une femme engagée dans la communauté du Sapel. C'est des chrétiens du Quart-Monde, dans la région surtout Lyon et Rhône-Alpes. Voilà, cette femme, elle s'appelle Bigna, et elle raconte l'histoire qu'elle a eue avec Mireille, une amitié de plus de 20 ans. Bigna a été mise en rapport avec Mireille pour le baptême de son dernier enfant. Et à cette occasion-là, Bigna trouve quelqu'un de très isolé, vivant dans une très grande solitude, une très grande misère, avec une douzaine de travailleurs sociaux, disons, autour de sa famille, une fois ils ont fait le compte. Presque tous ses enfants ont été placés. Alors Bigna et Mireille font connaissance. Mais il lui faudra un temps d'apprivoisement de près de 3 ans, pendant lequel Bigna vient très régulièrement voir Mireille, tous les 15 jours. Elle prend des rendez-vous avec elle. Et souvent, peut-être 3 fois sur 4, la porte de Mireille lui reste fermée. Mais Binia ne repart jamais sans laisser un mot, une trace de son passage qu'elle laisse dans la boîte aux lettres de Mireille. En même temps, pendant tout ce temps, ces 3 ans, Binia doit résister très fortement parfois aux demandes d'aide que lui fait Mireille. Et ça passe par des orages et des grosses tensions dans la relation. Voilà. Binia refuse d'entrer dans une relation d'aide avec Mireille en lui expliquant que ce qu'elle souhaite vivre avec elle, c'est de l'ordre de l'amitié. Et en lui disant, si je commence à te donner des choses, de l'argent, de la nourriture, ça va abîmer cette relation d'amitié. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre et ça demandera de se bagarrer pour ça. Voilà. Pourquoi Binia revient comme ça régulièrement auprès de Mireille? Pourquoi elle tient tant à cultiver cette relation? D'abord parce qu'elle s'est engagée au SAPEL et que ça fait partie vraiment d'une vocation, on peut dire. Et puis aussi parce qu'elle a senti, en découvrant un tout petit peu qui est Mireille, qu'elle partage avec elle une même promesse de vie. Et elle se sent même aux prises avec des difficultés semblables à celles de Mireille, qui se posent bien entendu à une échelle très très différente. Mais elle le dira dans l'entretien, elle se sent sœur au plus profond d'elle-même de Mireille. 20 ans plus tard, Mireille et Binia sont de très bonnes amies. Et donc c'est passé par des tas de choses. Leur histoire est passée par des tas de choses très différentes. Mais peu à peu, il y a des choses étonnantes qui sont venues, notamment, un type de rapport beaucoup plus profond, beaucoup plus fort entre elles. Et puis, Mireille a inventé une manière aussi, disons d'une certaine manière, elle a peut-être trouvé une manière de s'exprimer, de dire quelque chose en faisant des couvertures comme ça, comme celle-là. Voilà. Alors vous voyez, c'est fait avec des petits carrés de laine. Et ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas agencé n'importe comment. Voilà. Et il y en a toute une série comme ça. On pourrait presque y voir un peu des œuvres d'art. Vous savez comment s'est née cette affaire de couverture? C'est qu'à un moment donné, Mireille s'est trouvée enceinte et il y avait une grosse pression qui était faite sur elle pour qu'elle avorte. Et donc elle confie ça à Binia. Et Binia était assez embarrassée par rapport à ça. Elle n'avait aucune envie de lui dire ce qu'elle devait faire. Donc elle lui dit, bah, écoute, là tu as un travail de discernement à faire. Et je te propose une chose, c'est que les jours où tu auras envie de garder l'enfant, eh bien tu peux commencer à tricoter une couverture pour cet enfant. Voilà. Et les jours où tu n'auras pas envie de le garder, ben, on fera autre chose. Voilà. Et donc au bout du compte, il y a une première couverture qui est née, qui est venue, et Mireille a gardé cet enfant. Mais après, elle ne s'est pas arrêtée de faire des couvertures. Donc elle a continué. Et je crois qu'on peut dire que c'était totalement inattendu, mais que voilà, elle a trouvé une manière aussi de non seulement de s'exprimer, mais aussi d'apporter quelque chose, parce que ce sont des cadeaux qu'elle fait, ces couvertures. Elle en a fait peut-être une quinzaine, quelque chose comme ça. Comment qualifier ce type de relation entre Mireille et Binia? Je crois qu'on pourrait avancer le terme d'alliance en écho à ce thème qui court à travers toute la Bible. Une histoire d'alliance se reconnaît à ce type de lien dont je parlais tout à l'heure, ce lien qui n'a pas d'autre parce que c'est toi. Finalement, la Bible, c'est l'histoire de l'engagement de Dieu qui s'adresse à son peuple et plus largement à l'humanité, sans autre pourquoi que parce que c'est toi, mon peuple. Une des particularités de cette relation d'alliance, c'est de pouvoir associer des êtres dans une relation au départ asymétrique. La relation entre Dieu et son peuple, c'est une relation très asymétrique. La relation entre Binia et Mireille, c'est une relation très asymétrique en termes de, disons, de compétences, par exemple, de capacité de faire des choses. Voilà. Mais, Donc c'est une relation qui est capable d'intégrer l'inégalité. Mais parce qu'elle vise une réciprocité, elle pose d'emblée, plus fondamentalement que cette inégalité, une sorte d'égalité plus profonde que cela, que cette asymétrie. Voilà. Parce que l'autre, d'emblée, est institué comme étant capable quelqu'un de cap. L'autre est d'emblée institué comme étant capable de répondre à l'appel qui lui est fait. Voilà. Comme être de parole, du coup, on est d'emblée posé à égalité. En effet, l'échange, l'alliance n'est pas d'abord un échange de prestations, mais son ressort tient à la quête d'une réponse de la part de l'autre. Une réponse qui pourra engager la naissance d'un sujet. Je crois qu'on peut dire que le peuple d'Israël est né comme peuple en faisant réponse à Dieu qui l'appelait. Il a trouvé sa consistance et son identité en faisant réponse à Dieu. Donc vous voyez, l'alliance, c'est aussi une relation qui fait grandir, qui permet de trouver sa parole, sa manière de répondre, comme Mireille qui trouve sa manière de s'exprimer à travers ses couvertures, par exemple. Dans le récit de Bénia et de Mireille, on voit donc deux femmes qui s'appellent mutuellement et qui sont, on pourrait dire, mises en genèse l'une avec l'autre, du fait de leur relation réciproque. Et parce qu'elles peuvent reconnaître chez l'autre à la fois un même désir et une fragilité intime qui aussi les rapproche. Du coup, dans l'alliance, il y a aussi cette dimension-là. Alors, quand nous faisons une expérience de ce type de lien, nous faisons l'expérience, je crois, d'une relation d'alliance. Or, la relation d'alliance, je crois qu'on peut dire que c'est ça qui vivifie. Ce qui nous donne de vivre, c'est parce que nous avons été appelés par une relation de ce type-là, par nos parents, tout simplement. Aussi par tous nos éducateurs, nos amis, tous ceux qui tiennent à nous. Ça, c'est des relations de type alliance. Voilà. Les échanges de prestations, c'est un tout autre type de rapport. Les échanges de prestations, on pourrait dire, ce sont des échanges calculés. Loin de moi l'idée de mépriser ça. Une société a absolument besoin d'échanges calculés, sinon on serait dans l'improvisation totale, tout le temps. Par exemple, une relation de travail, un contrat de travail, c'est un échange calculé. Le fait d'aller acheter quelque chose dans un magasin, c'est un échange calculé. On a besoin de ça vraiment pour vivre en société. Mais l'échange calculé, c'est un échange de prestations. Ça nous permet de nous classer sur des échelles de grandeur en fonction des performances qu'on peut avoir. Ça nous permet aussi de comparer nos capacités. Mais finalement, quand on y réfléchit, ça ne dit jamais qui nous sommes comme êtres singuliers. Ça nous permet de nous comparer les uns aux autres. Mais se comparer les uns aux autres, ça ne dit jamais le singulier, l'unique que nous sommes chacun. Alors que la relation « parce que c'est toi », elle commence par là. Elle commence par s'adresser à l'unique qui est l'autre. Voilà. Et de même, on peut dire que, alors que l'échange calculé, c'est un échange qui peut très vite s'interrompre, une fois que l'échange de prestations est effectué, on peut ne plus avoir rien à voir l'un avec l'autre. Au contraire, la relation d'alliance, elle peut durer dans le temps. Et elle peut même aller vers un pour toujours. Voilà. Avec la tradition juive et chrétienne, on pourra dire que la relation d'alliance, c'est ce qui nous fait grandir et ce qui nous initie à la parole. Parce que c'est dans l'alliance qu'on ose apporter notre réponse. On ose faire réponse à celui qui nous appelle. Et c'est aussi une relation qui relève. Parce que l'alliance, elle est plus solide que nos défaillances et nos retards de réponse. La Bible est remplie de ça. Le peuple hébreu, il est rarement au rendez-vous de l'alliance. Mais, n'empêche, l'alliance continue malgré ça. Voilà. On peut y voir à la fois ce qui appelle à l'existence, ce qui porte la vie des humains et ce qui révèle vraiment le visage de Dieu. Parce que notre Dieu, le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu qui donne la vie. Et sans doute que la relation d'alliance est un chemin excellent pour découvrir qui est Dieu. C'est à travers toutes les relations au cours desquelles nous avons été aimés de cette manière-là que nous découvrons qui est Dieu finalement. Voilà, tout ça, ça fait que je crois qu'on peut dire que ces liens d'alliance ne sont pas du tout anodins. C'est pas banal du tout. Ça nous met en genèse. Et puis pour les croyants, on peut dire que c'est l'occasion de connaître Dieu. Voilà. Je reviens à la question de ce qu'on peut apprendre de la part des personnes en grande précarité. Je crois qu'on a ici un premier élément de réponse. C'est que le chemin fait avec des personnes en grande précarité nous convoque à mettre au premier plan de nos relations les logiques d'alliance. Grâce à elles, on est reconduit vers ce cœur vivant des liens humains. Et à partir de là, on va pouvoir chercher comment redonner plus d'importance, plus de force dans tous les liens, dans toutes les relations qu'on vit, à cette dimension de l'alliance. Voilà. Autrement dit, les personnes en grande précarité, justement parce qu'elles supportent mal une relation autre que le « parce que c'est toi », ce sont des guides vers l'alliance. On peut dire qu'on n'a peut-être pas de meilleur pilote pour nous conduire au cœur de la relation d'alliance. Voilà. À partir de là, on pourra même travailler une question difficile qui consiste à se demander comment donner plus de poids à cette dimension de l'alliance, à ces logiques d'alliance, non seulement dans les relations interpersonnelles, mais aussi à travers les cadres institués. Par exemple, l'école, l'hôpital, la justice. Cet après-midi, il y avait une conférence sur la prison. Hein. Et bien, on voit qu'il y a des manières de faire vivre dans ces institutions-là. On peut faire vivre ces institutions-là plus ou moins selon une logique d'alliance. Ou si vous construisez tout le système de justice uniquement sur le système de l'échange calculé, vous allez obtenir la loi du talion. Voilà. Notre conférencier nous a dit que c'était déjà pas si mal, ça a évité le chaos. Mais c'est quand même pas top. Voilà. On peut faire mieux que ça. Une relation d'alliance qui appelle l'autre, malgré tout ce qu'il a fait. Voilà, donc ça c'était une deuxième chose qu'on peut apprendre de la part des personnes en grande précarité. Un troisième point qui me semble qu'on peut le dire, ça, je crois que ces personnes en grande précarité nous permettent de renouer avec une part de nous-mêmes. Là, je vais mentionner plusieurs points assez brièvement sur ce qu'on peut redécouvrir aussi à l'école des personnes marquées par de grandes précarités ou par de grandes souffrances. À travers ce que je disais tout à l'heure, à travers l'exemple de la visite à l'hôpital, sur l'expérience d'une simple présence à l'autre, je crois que c'est aussi la question de la vérité qui est posée. Des personnes très pauvres ou qui traversent des choses très difficiles nous apprennent à être nous-mêmes sans phare, sans avoir besoin de jouer un rôle. Et en ce sens-là, c'est une école de vérité. Elle nous invite aussi, ça sera un deuxième point, à redécouvrir un autre rapport au temps. Parce que les personnes qui vivent dans l'urgence de la survie sont souvent assignées au présent. Comme si, à chaque instant, c'était le tout de leur existence qui se jouait. Alors, on pourrait dire que c'est une sorte de présentisme obligé, à cause de l'urgence. Ça a d'énormes limites, ça fait vivre dans des choses assez terribles. Et en même temps, ça nous renvoie à la question de notre rapport au temps présent. Par exemple, les personnes très pauvres sont capables de grandes joies, souvent bien plus grandes que celles dont on est capable, nous. Peut-être justement parce qu'ils vivent au présent. Parce que nous, quand on a de la joie, il y a toujours quelque chose dans notre tête qui dit « Oui, mais pour être dans la joie tout à fait pleine, il te manque encore ça, puis ça, et puis ça. » Une fois que tu auras ça, tu verras, là, ça sera la joie totale. Moyennant quoi, on n'est pas dans la joie maintenant. On n'est pas dans la joie pleine maintenant. Les personnes très pauvres, à cause de cette assignation au présent, eh bien, elles nous apprennent à être dans cette joie totale. Comme les enfants, on pourrait dire aussi pareil. Hein. Quelque chose comme ça. De même, ces personnes ont souvent une très forte sensibilité aux relations. Quand des personnes très pauvres sont interrogées, par exemple, sur la richesse, on avait fait ça une fois pour une session à Nevers, la première chose qui venait pour parler de la richesse, moi je pensais qu'il viendrait les affaires de dette, de crédit, etc. Non, quand ils réfléchissent sur la richesse, la première chose qui vient, c'est les relations. Être riche, c'est d'abord être riche de relations. Voilà, je crois que là aussi, on est ramené à un essentiel. Je crois qu'aussi, une des expertises des personnes qui sont aux prises avec la grande précarité, c'est une capacité qu'on peut trouver des fois très étonnante à se relever, à espérer encore alors que tout semble totalement bouché. Voilà. Des fois, on aurait presque envie de dire, mais c'est pas réaliste. Mais en fait, c'est ça qui va les faire tenir et qui va permettre de traverser des choses extrêmement dures. On peut mentionner aussi souvent, de la part de ces personnes, une grande sensibilité aux souffrants. Voilà, une grande capacité de compassion. Peut-être pas toujours, mais je crois que chez beaucoup de personnes, en tout cas, on peut retrouver ça. Et puis, il y a encore sans doute beaucoup d'autres choses que j'ignore ou dont je n'ai pas conscience. Voilà. En tout cas, on peut dire qu'à travers ça, c'est toute une part aussi de nous-mêmes qui nous est redonnée d'accueillir quand on fait un chemin avec des personnes en grande précarité. Et on peut dire d'une manière générale que s'il n'est pas facile de dire ce que nous apprenons des personnes marquées par la grande pauvreté, en revanche, il est clair que lorsque nous les méprisons, lorsque nous les laissons de côté, nous risquons d'être mutilés de toute une part de nous-mêmes. Parce qu'une histoire qui s'écrirait en les laissant de côté, c'est une histoire qui ne retiendrait que les succès, que les réussites. C'est l'histoire de nos mille manières de nous affronter à ces défis et de les vaincre. Très bien. On peut dire en gros, beaucoup de films, par exemple, ou de séries télévisées, plus ou moins bonnes, sont écrits sur ce modèle-là. Mais quelle figure de l'expérience humaine cela dessine-t-il? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de profondément tronqué, quelque chose de sourd, quelque chose même de mensonger, dans la mesure où on laisse de côté toute une part de nous-mêmes, de notre histoire, la part peut-être la moins reluisante, la part marquée par l'échec, mais qui fait partie de notre histoire? Et peut-être que fréquenter aussi des personnes en grande précarité nous aide à admettre cette part de nous-mêmes. Voilà. Quatrième chose qu'on peut apprendre de la part des personnes en grande précarité, c'est que je crois qu'on est reconduit vers le cœur vivant de la foi. Il y a beaucoup de personnes en grande précarité qui sont croyantes. Toutes ne le sont pas. Hein. Mais il y en a beaucoup qui sont croyantes et qui vivent quelque chose de très fort avec Dieu. Ça fait partie de leur jardin secret, et c'est vrai que c'est pas facile d'y avoir accès, et ça suppose qu'elle nous ouvre ce jardin secret. Déside Montalembert, avec ATD Quart-Monde, raconte comment, pour elle, c'est en faisant venir des personnes du Quart-Monde à Lourdes qu'elle a pris conscience de l'importance de la part très grande et très vive de leur foi. Je crois que la première fois qu'à ATD Quart-Monde, on a invité des personnes à venir à Lourdes, c'était en 1975 ou 1976. La première année, il y a eu 32 personnes qui sont venues. La deuxième année, il y en a eu 64, le double exactement. La troisième année, 130, le double, plus du double. Et ensuite, ça a été toujours entre 200 et 300. Et Binia Paturle, elle dont je parlais tout à l'heure avec son histoire avec Mireille, raconte comment ce sont ces pèlerinages-là qui ont permis aux volontaires d'ATD Quart-Monde de prendre conscience de l'importance de la dimension spirituelle des personnes très pauvres. Et là, je cite Binia. À Lourdes, nous avions pris conscience de l'importance de ce temps de prière autour de la Passion. Les personnes humiliées et blessées nous ont introduit peu à peu dans le mystère du Messie crucifié. Paradoxale bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent. Et là, elle cite des personnes du Quart-Monde. Nos vies nous font aussi souffrir. C'est le chemin de croix de Jésus à travers nos vies et la foi qui nous permet de tenir bon. Et c'est vrai que ces personnes du Quart-Monde étant à Lourdes, eh bien, elles avaient comme une attirance très forte vers le chemin de croix. Je crois qu'à Lourdes, il y a un chemin de croix grandeur nature. Hein. Et donc, c'était toujours vers ce chemin de croix-là que ces personnes allaient. Ça a permis à des gens, à ce qui est devenu ensuite le Sapel, de prendre conscience de l'importance pour les personnes du Quart-Monde de la Passion du Christ. Du coup, ils se sont mis à animer des chemins de croix pendant le carême. Et finalement, ils en ont fait une œuvre d'art en sérigraphie avec 14 planches de chemin de croix. Un chemin de croix un peu particulier parce que la première station, c'est la naissance du Christ. Voilà. Un chemin de croix qui commence avec la naissance du Christ et qui se termine avec la résurrection aussi. Il y a donc une grande familiarité des personnes en grande précarité avec le Christ, et notamment avec le Christ dans sa passion. Voilà. C'est une chose aussi que souligne le pape François dans son texte Evangelii Gaudium. Je vous lis un extrait. « Je désire une église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, donc ça veut dire le sens de la foi, les communs de tous les fidèles, par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leur existence et de les mettre au centre du cheminement de l'Église. » À travers ces quelques phrases-là, vous avez quand même un sacré programme proposé à l'Église. Voilà. À quoi donc ressemble la foi des personnes en grande précarité? Ici, donc, à travers ce que je viens de dire là, vous voyez un premier trait qui est une très grande sensibilité au Christ souffrant, et du coup une très grande proximité au Christ souffrant. Quand des personnes du Carmonde commentent la Passion, des fois, rien qu'en regardant la grammaire, vous avez l'impression qu'elles y ont assisté. Ou bien que c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Comme si elles étaient contemporaines du Christ en sa passion. Voilà. Je vais ici, pour compléter un petit peu, ça c'est un premier trait, disons, de la foi des personnes du Carmonde. Pour compléter, je vais me référer au travail de François Audinet, dont je parlais tout à l'heure, qui a travaillé à partir de Fabie Barthimé. Hein. Donc publié sous le titre « Vivant grâce à Dieu ». François s'est intéressé à la manière dont les membres de la famille Barthimé lisent la Bible et prient avec elle, la manière dont la parole de Dieu soutient leur vie. Tout d'abord, il montre que les personnes en grande précarité prennent très au sérieux la parole de Dieu. Elles y reconnaissent une promesse qu'elles ont également entendue dans leur propre vie. Même si dans leur propre vie, elles ne voient pas l'accomplissement de cette promesse. C'est ce que François Audinet va appeler une promesse originelle. Et à partir de là, il va dire ben, sans doute que cette promesse, elle est inscrite au plus profond de chaque être humain. Lorsque des personnes marquées par la grande précarité lisent la parole de Dieu, lorsqu'elles prient avec elles, elles font l'expérience de reconnaître cette promesse qu'elles ont inscrite en elles-mêmes, et qui a pris consistance dans l'histoire des personnes de la Bible. Donc elle voit cette promesse se réaliser chez les personnes, chez les acteurs dont on voit l'histoire dans la Bible. Et lorsqu'elles lisent la Bible et qu'elles la partagent et qu'elles prient avec elles, alors il n'est pas rare qu'elles fassent l'expérience que quelque chose de cette promesse se réalise au moment même. Voilà. Et notamment, quand elles font mémoire de l'expérience de la présence de Dieu, il arrive qu'elles disent qu'au creux même des épreuves, et des épreuves les plus douloureuses qu'elles ont traversées, elles ont fait aussi cette expérience de la présence de Dieu. Alors je cite ce qu'écrit François Audinet à ce propos. « Les personnes très pauvres que nous avons écoutées apparaissent comme des vivants grâce à Dieu. » C'est le titre de son livre, « Vivants grâce à Dieu ». Leur contemplation révèle que au moment même où les personnes très pauvres sont éprouvées, de tels moments ne manquent pas, la fidélité de Dieu peut aussi être éprouvée. Et l'épreuve est simultanément une épreuve de la fidélité de Dieu. Et il ajoute: que Dieu soit présent semble ne rien changer. Et pourtant, ceux qui parlent ainsi Et pourtant, pour ceux qui parlent ainsi, sa proximité change tout. Ils nous disent ce qu'il n'appartenait qu'à eux de voir. Dieu est fidèle à sa promesse et sa fidélité fait vivre. Elle fait vivre au sens propre, quoi qu'il en soit de la lourdeur du fardeau. Ce sont des personnes qui vivent dans la très grande précarité qui disent ça. Et ils font une expérience que nous-mêmes, on ne fera peut-être qu'exceptionnellement. Parce que nous, ce n'est pas du tout notre situation ordinaire que notre vie soit suspendue à un fil. Or, eux, c'est un peu leur situation quotidienne. Or, faisant cette expérience d'une vie suspendue à un fil, ils font cette expérience de la présence de Dieu. Que la promesse de Dieu, c'est réel. Voilà, que ça les touche, ça les rejoint, là où ils sont. Et bien ça, je crois que ça, pour tous les croyants, du coup, ça dit quelque chose de la promesse dont nous entendons parler chaque fois que nous allons dans une église. Et ça atteste que cette promesse-là, c'est pas du baratin. Voilà, que c'est réel. Que ça, des personnes voient leur vie portée grâce à cette promesse-là. Vous voyez qu'à partir de là, on va pouvoir dire que si les personnes qui vivent de telles précarités peuvent partager l'expérience de Dieu qu'elles ont, alors c'est une source très très grande pour toute l'Église, pour tous les chrétiens. Parce que c'est une manière d'attester, comme je le disais tout à l'heure, que notre foi, ce n'est pas du baratin, que c'est vrai, que Dieu est vraiment présent, voilà, et qu'il nous porte quand on est au creux de l'épreuve. C'est un petit peu dans les évangiles, quand il y a des disciples qui disent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, nous en sommes témoins. » Et parce qu'ils disent ça, parce qu'ils l'ont vu. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que les personnes en grande précarité, eh bien, sans doute pas toujours, mais certaines d'entre elles ont fait ce type d'expérience d'une présence de Dieu et peuvent nous la partager. Voilà. Et ça, c'est quand même un trésor assez extraordinaire pour l'Église. Alors maintenant, quels effets tout ça peut avoir? Qu'est-ce que ça peut provoquer dans une société, aussi dans une institution, dans une collectivité, dans un groupe? Cette attitude, qui fait, tout ce que je viens de dire qu'on peut recevoir de la part des personnes très pauvres. Alors, il me semble qu'ici, on pourrait évoquer la figure de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. Vous avez ici une expo, je pense, qui est faite par l'Arche de Jean Vanier. Donc, des communautés de vie avec des personnes marquées par de gros handicaps. Et le leitmotiv de Jean Vanier, ce qu'il n'a cessé de répéter toute sa vie, c'est que les personnes très vulnérables nous apprennent à accepter nos propres limites et fragilités. Et même que découvrir nos limites et nos fragilités, ça sera précieux pour entrer en relation. Ça sera un outil, presque, on pourrait dire, pour entrer en relation. Voilà. On retrouverait ici ce que je signalais en introduction, c'est que les personnes en grande précarité nous empêchent d'oublier nos propres précarités. Voilà. Et qu'à partir de là, quand on n'en a pas peur, eh bien, on pourra se reconnaître tout simplement dans l'incomplétude et dans le besoin. Et à partir de là, on pourra envisager de nous venir en aide les uns aux autres. Et la relation s'établit finalement à partir de là. Mais si au contraire, nous prenons comme modèle le héros invulnérable, celui qui trace tout seul sa route, qui prouve à tout le monde ce qu'il vaut, et qui écarte sans coup férir tous les obstacles, alors nous sommes en train de nier nos failles et nos faiblesses. Et si nous nous présentons comme des êtres ainsi qui sont compacts, sans failles, sans aspérité, alors vous voyez que ça va singulièrement compliquer toutes nos relations, parce qu'il n'y aura plus rien en nous qui signifiera aux autres qu'on a besoin d'eux. Alors je crains fort que la seule manière de nous réunir, ça sera de nous désigner un adversaire commun, un ennemi contre qui rassembler nos forces. Et on fera jouer le vieux réflexe du bouc émissaire. Ça, vous pouvez toujours rassembler un groupe en lui désignant un ennemi. C'est facile et ça marche. Voilà. Mais à partir de là, je crois qu'on peut dire que plus notre société fonctionne sur l'imaginaire du zéro défaut, c'est-à-dire que plus on nie finalement notre part de vulnérabilité qui est en nous, plus on refuse de reconnaître aussi nos failles et nos défauts et nos limites, plus on va vers une société potentiellement violente. Voilà. Je tremble un peu en disant ça, parce qu'on pourrait lire l'actualité du monde en y retrouvant ce que je viens de dire. Et ça nous promettrait, je mets un conditionnel, parce que je pense qu'on a quand même d'autres ressources pour affronter ça, mais si on allait dans ce sens-là, tête baissée, ben, ça nous promet un horizon de violence. Voilà aussi pourquoi les personnes en grande précarité sont pour une société si précieuse. Parce que chez elles, les failles ne peuvent se cacher, et elles le savent très bien. Et l'offre de relations qu'elles nous font passera pour nous par la reconnaissance de nos propres failles. Et une société qui se préoccupe sérieusement des plus vulnérables, eh bien ça devient aussi une société où l'on a moins peur les uns des autres, où diminue l'angoisse d'être privé de sa place, de n'être pas à la hauteur. Car une telle société déclare comme un principe fondamental qu'on peut faire une place aux plus pauvres, à celui qui est très, très isolé, très loin de tous nos champs relationnels. Et une société qui proclame ça comme un principe fait diminuer pour tous l'angoisse de ne pas trouver sa place, parce qu'on ne serait pas à la hauteur, ou parce qu'on serait perdant dans les compétitions. Voilà. Voyez, on retrouve ici, par un autre biais, la dimension politique du choix de la priorité donnée aux plus pauvres. Je crois que ça a aussi un effet pour toute la vie en société. Ça. Si une place est faite aux plus vulnérables, alors tous les autres pourront également trouver leur place. Mais dans une société qui oublie ses pauvres, ou bien qui les parque dans les zones où on les laisse croupir, c'est une société qui s'expose à la violence. Qui s'expose d'abord à la violence qui viendra des pauvres en révolte, parce qu'on peut supposer qu'ils vont protester vigoureusement contre cette mise à l'écart, mais qui ensuite s'entretiendra en activant des mécanismes de bouc émissaire chez tous ceux qui prendront peur, en commençant par ceux qui se sentent eux-mêmes menacés par la précarité. Voilà. Et ce que je décris est peut-être, hélas, ce qui est en train de nous arriver. À partir de là, je crois qu'on peut dire que plus une société, plus une institution, plus une collectivité, plus une communauté a le souci des plus vulnérables de ses membres, et plus elle pourra développer des rapports respectueux entre tous. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie sur les effets possibles d'une vraie place donnée aux plus vulnérables. Maintenant, est-ce qu'on pourrait envisager un mouvement social à partir du souci des plus vulnérables ? Est-ce qu'on pourrait envisager quelque chose comme un mouvement social qui se structurerait à partir du souci des plus pauvres ? Il s'agirait, on pourrait dire, d'une forme nouvelle, presque paradoxale du mouvement social, parce qu'il viserait non pas à établir un rapport de force, mais à communiquer de proche en proche une expérience heureuse, qui indique au passage que nous ne sommes pas condamnés à vivre toute notre existence dans le registre de la compétition, et que l'aventure humaine ne se résume pas uniquement à la lutte des uns contre les autres. Il y a d'autres manières de mobiliser les énergies et de faire bouger les règles du jeu. Et ça pourrait donner à voir donc de nouvelles figures de mouvement social, de nouvelles formes d'engagement. Voilà. Un exemple. L'espace de ces dernières années, on pourrait dire des 15 dernières années, on a vu fleurir en France un bon nombre d'initiatives de colocation solidaire. Il y a une quinzaine d'initiatives de ce type-là, qui ont souvent un lien assez fort à l'Église. Alors ça consiste à partager son toit, soit pour une nuit, par exemple dans le cas des opérations hiver solidaire, c'est né dans le diocèse de Paris, mais je crois que ça s'est étendu après, soit pour quelques semaines, comme le programme Welcome du JRS, le service Jésus des réfugiés, soit pour un an ou plus, par exemple Valgiros, LAPA, l'association pour l'amitié, Lazare, Simon de Sirène, ensemble deux générations, ça c'est les personnes très âgées avec un étudiant par exemple, les demeures des sources vives, le village Saint-Joseph, etc. Il y a beaucoup d'initiatives toutes petites ou bien plus importantes qui ont proliféré comme ça au cours des 10 ou 15 dernières années. Alors bien sûr, il faut préciser que l'Arche de Jean Vanier fonctionne sur ce modèle depuis plus de 50 ans. Mais c'est assez étonnant que ce modèle-là, tout à coup, s'est mis à faire plein de petits, comme ça, en l'espace de quelques années. Il s'agit à chaque fois, finalement, quand on y réfléchit, d'engagements très impliquants, puisque quelqu'un va se retrouver sous le même toit que des personnes qui auparavant vivaient à la rue, par exemple, et des personnes qu'il n'aura pas choisies non plus. Voilà. Ça ne peut pas ne pas avoir des retentissements profonds sur soi, sur sa manière d'organiser la vie, de voir le monde, etc., etc. On peut dire que c'est un engagement qui travaille de l'intérieur, celui qui s'y livre. Et cela, je crois qu'on peut voir ici une forme d'engagement un peu nouveau par rapport à l'engagement militant classique où on visait peut-être avant tout à changer des réalités mais qui restaient quand même extérieures à nous. Alors bien sûr, là-dedans, on était soi-même transformé, mais ce n'était pas ce qui était visé. Alors que là, il me semble que dans ce type d'engagement, ce qui est visé, c'est aussi soi-même d'être transformé. Voilà. J'ai fait un petit travail d'enquête auprès de quelques jeunes qui ont vécu ça, à Valgiros et à LAPA, à Paris, et c'est ce qu'ils disent. Ils disent comment ils ont été transformés. Voilà. Et comment ils visaient ça, d'une certaine manière aussi. Voilà. Il me semble qu'on pourrait rapprocher ces formes nouvelles d'engagement des combats pour de nouveaux modes de vie qui sont liés à la crise écologique. Parce que ces deux types de combats ont quelque chose en commun, c'est qu'à chaque fois, ce sont les acteurs eux-mêmes qui acceptent de se remettre en cause assez profondément dans leur mode de vie, dans leur manière de voir, dans leur manière de réagir spontanément. Voilà. Il se pourrait donc qu'on voit apparaître un type de militant d'un nouveau profil. Voilà. Alors, on pourrait se demander à partir de là, ça concerne des personnes, ce que je viens de dire. Est-ce que des institutions elles-mêmes pourraient s'impliquer dans ce nouveau type de mouvement social? Je répondrai spontanément oui, parce que je crois que, de toute façon, sans figure institutionnelle, ce mouvement risque fort de se limiter à quelque chose qui restera marginal. Mais aussitôt, on doit ajouter que les institutions en question ne seront crédibles que si elles-mêmes, comme les acteurs nouveaux qui se laissent transformer par l'expérience qu'ils vivent, ben, il faut que les institutions aussi acceptent d'être mises en cause. Voilà. À cet égard, il me semble que ce qu'on a vécu autour du rassemblement Diaconia à Lourdes en 2013 est assez intéressant pour l'Église. Parce que, pour moi, ça sera un peu le symbole de ce que peut vivre l'Église si elle s'engage dans ce type de mouvement social. C'est pas tout à fait approprié pour l'Église, mais elle peut quand même participer à ce mouvement-là. Voilà. Mais au passage, l'Église elle-même sera convoquée aussi à se laisser transformer. Voilà. À ce sujet-là, je vous donne un exemple de comment ça a pu marcher lors du rassemblement de Diaconia. Et je vais terminer là-dessus. C'était un texte qui a été lu par le groupe Place et Paroles des Pauvres, et ça a pratiquement ouvert le rassemblement de Diaconia. En fait, ce qui a vraiment ouvert le rassemblement de Diaconia, c'était les paroles des détenus, des membres de l'aumônerie de la maison d'arrêt de Béziers. Ils commentaient un texte d'évangile, et c'est comme ça qu'on a ouvert le rassemblement de Diaconia. Et après, il y a Place et Paroles des Pauvres qui a lu un texte beaucoup plus long que ça, mais là, je vous lis juste un paragraphe. Ensemble, on peut transformer des choses et faire comprendre que l'Église n'est pas réservée à certaines personnes. Ensemble, on va construire un autre chemin, une autre expérience, pour que dans les rencontres, il y ait l'échange et l'écoute, et que, quand on sort de l'Église, on fasse ce qu'on a dit. Diaconia, ça peut être le début d'autre chose, réveiller l'Église à une autre dimension, c'est-à-dire une manière de suivre le Christ dans sa manière à lui d'être avec les plus pauvres. Parce que lui, Jésus, il a traversé le même chemin que les pauvres. Vous voyez, en quelques phrases, des personnes qui sont elles-mêmes marquées par la grande pauvreté disent aux 12 000 participants qui étaient là ce qu'elles attendent de ce rassemblement. Et c'est un appel à construire un autre chemin. Et c'est un appel à construire ça ensemble. Le mot, le paragraphe commence par ce mot-là, ensemble. C'est un appel pour vivre un peu autrement l'Église, qui ne doit plus être réservée à certaines personnes. Donc un appel qui vise beaucoup plus que simplement les 12 000 personnes réunies à Lourdes. Et puis, et surtout, c'est un appel à se mettre à nouveau à l'école du Christ, en étant attentif à la forme de sa mission, à laquelle on ne prend pas toujours garde, c'est que lui-même a traversé le même chemin que les pauvres. En somme, ce que font ces personnes, c'est tout simplement de rappeler l'Église à sa mission. Rien de moins. Et on voit alors comment une institution peut être relancée dans sa vocation, parce que c'est la vocation de l'Église que de suivre le Christ, mais on voit comment une institution peut être relancée dans sa mission par les personnes en grande précarité. Mais au passage, évidemment, l'Église est invitée à être transformée, à se laisser transformer. Et ce qui est vrai pour l'Église pourrait sans doute l'être pour beaucoup d'autres institutions dans notre société qui se verraient elles aussi rappelées à leur vocation première par les personnes les plus précaires, leur vocation première qui souvent a tendance à être recouverte par des tas d'autres choses et qu'on finit des fois par oublier. Voilà. On entend, autrement dit, à travers ces quelques phrases, comment des personnes en grande précarité font autorité. C'est-à-dire, elles sont capables de rappeler une institution comme l'Église à sa vocation et en même temps à l'inviter à se laisser transformer. Si l'Église entend une telle parole d'autorité, si elle se met à cette école, je crois que non seulement elle refleurira, mais je crois qu'elle peut rendre un grand service à la société tout entière, qui aujourd'hui est tentée par de nombreux démons. Voilà. Je m'excuse de terminer mon intervention par le mot démon. C'est pas. J'aurais dû trouver autre chose. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Excusez-moi, parce que j'ai mis un peu plus que le temps.
Je vais couper un petit peu.